Le journal vous est présenté par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Nora, bonjour à tous. La Turquie sera-t-elle la nouvelle médiatrice entre Israël et le Hamas? C'est en tout cas ce que souhaite le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'entretient aujourd'hui avec le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, alors que le Qatar ne parvient pas à débloquer les négociations. Répression, punition, le sursaut d'autorité à l'école réclamé par Gabriel Attal se fait au détriment de l'accompagnement, déplorent les syndicats enseignants. Et certaines mesures soulèvent aussi des questions juridiques qui préoccupent magistrats et éducateurs. Alors quelle est la bonne réponse face à la violence des jeunes? Eh bien, nous poserons la question à notre invité, Laurent Moukieli, sociologue et directeur de recherche au CNRS. Les chômeurs cherchent activement du travail. C'est ce que révèle la dernière étude menée par France Travail et qui bat donc en brèche le fantasme du chômeur paresseux. Et puis enfin, nous irons à la Biennale de Venise, 60e édition, où le pavillon français a été confié au plasticien franco-caribéen Julien Creuset. Quand la Turquie cherche à endosser le rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et le Hamas, le chef du mouvement palestinien Ismaël Haniyeh, arrivé en Turquie hier soir, doit s'entretenir d'ici une demi-heure avec Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui veut croire que son soutien à la cause palestinienne lui permettra de débloquer les négociations pour arracher une trêve et la libération des otages israéliens. Au moment où le Qatar, pays de résidence d'Ismaël Haniyeh, menace de se retirer des discussions à Nandlauer.
Dans les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, la Turquie n'est pas un acteur majeur comme le sont le Qatar ou l'Égypte. Son soutien sans faille au Hamas, les tirades régulières du président Tayyip Erdogan sur Israël État terroriste, auteur d'un génocide, les sanctions commerciales décrétées au début du mois contre l'État hébreu, tout cela empêche la Turquie de prétendre à un rôle de médiateur. Mais sa proximité ancienne avec le groupe palestinien, qui dispose d'ailleurs de bureaux et de représentants en Turquie, est aussi ce qui met ce pays en bonne place aujourd'hui pour porter des messages et aider peut-être à débloquer les négociations au moment où celles-ci piétinent. Ces derniers mois, la Turquie semble particulièrement impliquée dans les discussions sur les otages israéliens à Gaza et leur échange contre des prisonniers palestiniens. Le Hamas aurait suggéré qu'Ankara joue un rôle de garant d'un accord sur ce point. Ce qui est sûr, c'est que la diplomatie turque s'active. Les échanges se multiplient ces derniers jours avec les États-Unis, le Qatar ou encore l'Égypte, dont le ministre des Affaires étrangères est d'ailleurs attendu en Turquie ce samedi. L'objectif du président Erdogan est triple: contribuer à un cessez-le-feu avant que le conflit ne s'étende, éviter que le sort des Gazaouis ne passe au second plan derrière les tensions entre Israël et l'Iran, et répondre aux critiques au sein de son opinion publique qui lui reproche de ne pas en faire assez pour les Palestiniens de Gaza.
Anne Andlauer, correspondante de RFI à Istanbul pour France Culture. Le ministère de la Santé du Hamas annonce par ailleurs un nouveau bilan. Plus de 34 000 Palestiniens ont été tués dans les représailles israéliennes depuis l'attaque du 7 octobre dernier. En Irak, une explosion dans une base militaire la nuit dernière a fait au moins un mort et 8 blessés à 50 km au sud de Bagdad, une base abritant d'anciens paramilitaires pro-Iran. L'origine de cette explosion reste pour l'heure inconnue, mais cet incident intervient dans un contexte de vives tensions après l'attaque iranienne sur Israël le week-end dernier. Le Pentagone américain assure que les États-Unis n'ont pas mené de frappe en Irak. L'armée israélienne, quant à elle, n'a pas fait de commentaires jusqu'à présent. Les yeux de l'Ukraine rivés sur le Congrès américain aujourd'hui. La Chambre américaine des représentants doit se prononcer cet après-midi sur une nouvelle aide au pays, une enveloppe de 95 milliards, dont 61 pour soutenir militairement et économiquement Kiev. C'est ce que réclame depuis des mois le président américain Joe Biden, qui fait face à des querelles partisanes entre les républicains et démocrates à la Chambre des représentants. Si le texte est voté, il sera ensuite étudié par le Sénat à majorité démocrate. Aux États-Unis, où New York devrait devenir, en juin prochain, la toute première ville à se doter d'un péage urbain, destiné en particulier à réduire embouteillage et pollution dans le sud de Manhattan. Le dispositif, s'il n'est pas bloqué par la justice, prévoit d'imposer aux automobilistes une taxe de $15 à l'entrée d'une partie de la ville. Et si cette mesure est discutée depuis des décennies, Loïc Loury, elle divise toujours autant ses habitants.
Molly sort de son immeuble dans le Financial District, accueillie par un concert de klaxons. Elle se réjouit de ce futur péage urbain. C'est super pour la ville. D'autres dans le monde l'ont déjà fait et ça marche. Écoutez ce vacarme. Alors ceux qui conduisent depuis le New Jersey, qu'ils aillent se faire voir. $15 en journée à l'entrée de toute la partie de Manhattan située au sud de Central Park. De quoi décourager, selon la ville, la venue de 150 000 véhicules par jour. Celui de Mira, notamment moi un ouvrier du Queens. La ville, tout simplement, vole de l'argent aux gens comme moi. Je vis dans le Queens, je suis un New-Yorkais, et malgré tout, je vais devoir payer. Ce n'est pas juste du tout. Colère partagée par les chauffeurs de taxi ou les habitants du New Jersey voisin, ce péage profitera pourtant à tout le monde. C'est ce qu'affirme Alexa Sledge de l'organisation Transportation Alternatives. Il y aura moins de trafic et donc vous pourrez aller plus vite au travail. Le coût du péage sera amorti. Moins de circulation, c'est bon pour l'économie parce que les bouchons ici nous coûtent près de 20 milliards par an. Quant à la manne dégagée par ce péage, 1 milliard de dollars par an, elle permettra de rafistoler les transports publics.
Le reportage de notre correspondant Loïc Loury dans les rues new-yorkaises. Y aura-t-il une nouvelle réforme de l'assurance chômage, la quatrième donc depuis 2017? C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement, dont le chef Gabriel Attal a rappelé jeudi soir les grandes lignes avec une durée d'indemnisation réduite, des conditions d'affiliation durcies. Un nouveau tour de vis donc qui suscite l'ire des partenaires sociaux et d'une partie du camp présidentiel. Alors qu'en grande majorité, les chômeurs recherchent activement du travail, c'est ce qui ressort du dernier bilan de France Travail publié aujourd'hui. Bonjour Jeanne Serrin.
Bonjour.
Alors en 2023, 523 400 contrôles ont ainsi été effectués et les deux tiers des chômeurs contrôlés étaient bien en recherche active d'emploi. Seulement 17% des contrôles effectués ont ainsi donné lieu à une sanction pour recherche insuffisante, Jeanne.
Oui, et ces chiffres que vous citez étaient très attendus puisque la dernière étude de ce type datait de 2017 et que depuis, le contrôle des chômeurs a été complètement réorganisé. Le nombre de contrôleurs a été multiplié par 3. Le nombre de contrôles a lui aussi explosé. Et ce que nous apprend cette étude, eh bien, c'est que cette réorganisation a finalement eu peu d'effet. C'est ce que constate le sociologue du travail, Jean-Marie Pilot.
Sur une période assez longue, on constate une étonnante stabilité. L'écrasante majorité des demandeurs d'emploi, donc en l'occurrence 83%, même après un contrôle assez tatillon, apporte des preuves de leur recherche d'emploi.
Et vous l'avez rappelé, ces chiffres sont révélés au moment où le gouvernement multiplie les prises de parole sur une éventuelle réforme de l'assurance chômage. Il y a quelques semaines, le Premier ministre Gabriel Attal annonçait vouloir tripler le nombre de contrôles d'ici 2027 pour les faire passer à 1,5 million par an. Une manière pour lui de lutter contre ceux qui profiteraient des indemnisations sans rechercher du travail. Une stratégie questionnée par Jean-Marie Pilot au regard du bilan de France Travail.
On n'a pas le sentiment que les personnes, entre guillemets, profitent de leur chômage à la vue de ces données. Une des conclusions qui s'impose, c'est sans doute que le gouvernement cherche à mettre la pression à la fois sur les chômeurs, reprenez le premier emploi qui vient, sinon on serait sanctionné, mais aussi sur les salariés, c'est-à-dire éviter de quitter votre emploi. Ça conduit aussi à être beaucoup moins revendicatif en matière de salaire, en matière de conditions de travail, etc.
L'étude souligne enfin que parmi les personnes contrôlées en 2023, la moitié ne bénéficiait pas d'une allocation chômage et ces personnes non indemnisées restent elles aussi en majorité en recherche active d'emploi.
Jeanne Serrin, surveiller et punir les chômeurs donc, mais aussi les élèves, c'est en résumé le virage que souhaite prendre le Premier ministre qui appelle à un sursaut d'autorité à l'école et propose donc une série de mesures qui seront discutées lors d'une concertation de 8 semaines. Gabriel Attal propose pêle-mêle de mettre en place des commissions disciplinaires aux primaires dès septembre prochain, des sanctions sur les diplômes ou encore l'inscription de la mention perturbateur sur le dossier Parcoursup. Bonjour Laurent Micheli.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS, co-auteur entre autres de la violence des jeunes en question. Alors, parmi les mesures esquissées cette semaine par le Premier ministre, on note une évolution de la justice pénale des mineurs avec la mise en place de comparutions immédiates pour les mineurs de plus de 16 ans. Gabriel Attal propose aussi d'ouvrir le débat sur l'atténuation de l'excuse de minorité. Que vous inspirent toutes ces annonces ?
Bon, d'abord, ça m'inspire une impression très peu perpétuelle. Hein. Moi, ça fait 27 ans précisément que je fais mon métier de chercheur au CNRS. J'ai vu cette séquence, ces argumentations et ces conséquences dans les réformes législatives. Je les ai vues déjà une quinzaine de fois, je pense. Hein. C'est les mêmes mécanismes, les mêmes discours, les mêmes annonces qui se concluent ensuite sur...
On a un petit problème.
Les réformes de la justice des mineurs, des gens qui ont par exemple entre 16 et 18 ans et d'être traités comme des majeurs, etc. Donc ça m'inspire essentiellement ça, une répétition d'un type d'argumentation politicien en période de contexte électoral que j'ai déjà vu, je dirais quasiment à chaque élection, se produire en France.
Mais est-ce qu'elle ne soulève pas aussi des questions juridiques, ces mesures ?
Oui, il faut en parler avec des juristes. Hein. Moi, je suis essentiellement sociologue et mon point critique, c'est de dire quelle est la réalité que prétendent décrire ces discours et sur lesquels ils prétendent intervenir. Et cette réalité, dans tous ces discours, j'estime qu'elle est déformée à la base. Donc évidemment, c'est un problème. Hein. Si vous prétendez prendre des mesures sur la base d'un diagnostic et ce diagnostic peut être contesté ou on peut montrer qu'il est faux. C'est ça mon point d'expertise. Non, c'est pas la question juridique, il faut en parler avec des juristes.
Bien sûr, tout à fait. Alors parlons de la réalité de la violence chez les jeunes. Le Premier ministre parle de l'abdication à la violence d'une partie de la jeunesse. Une violence qui se déroule d'ailleurs, selon lui, sur fond de contestation des valeurs républicaines. Gabriel Attal a même parlé de groupes qui cherchent à faire un entrisme islamiste. Vous qui travaillez depuis plusieurs années sur la délinquance et la violence des jeunes, partagez-vous ce constat du Premier ministre ?
Non seulement je ne le partage pas, au sens que je ne vois aucun élément dans la réalité qui permette de soutenir ce genre de choses. Je vois par contre très bien ce que ça signifie du point de vue idéologique et à qui ça peut parler du point de vue électoral. Mais dans la réalité, il faut rappeler des choses que tout le monde devrait savoir. Il y a depuis 50 ans en France, il y a des recherches, il y a des bases de données, il y a des enquêtes. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un émoi dans le débat public, souvent, ensuite, on met en place des indicateurs, on affine les indicateurs, etc. Il faudrait s'en servir quand même, ce serait bien. Il faudrait aller les voir, être capable de s'en servir. Ça éviterait de dire n'importe quoi, comme malheureusement le font les politiciens, surtout quand ils sont en contexte de campagne électorale. Donc, quand on se tourne vers ces indicateurs, qui sont multiples, il y a les données policières, il y a des données judiciaires dans la recherche, les enquêtes en population générale. Il faut connaître précisément tous ces indicateurs, leurs intérêts, les limites, les comparer et essayer d'en tirer quelques réflexions générales. Alors, quand on fait ce travail-là, rien ne permet de dire, un, qu'on assiste à une transformation quelconque de la délinquance des mineurs. On peut chiffrer le fait qu'il y en a un petit peu moins, un petit peu plus et rentrer dans le détail, mais une transformation quelconque, rien, à mon sens, ne permet de le dire. Mélanger ça avec des questions de religion, avec derrière toutes les représentations qui peuvent arriver, ou même des questions de terrorisme, ça n'a strictement aucun sens. La délinquance des mineurs, c'est fondamentalement des vols, des dégradations, des bagarres, des usages ou des trafics de drogue. C'est de ça dont il faut parler. Qu'est-ce que vient faire la question des gens radicalisés par la religion là-dedans, etc. Ça n'est pas de ça dont on parle au quotidien, ça n'est pas de ça dont les services de police et de justice s'occupent au quotidien. Je dirais que c'est profondément décalé avec la réalité. Ça s'adresse aux représentations, aux peurs des Français. Et malheureusement, ça ne décrit pas la réalité de ce qui se passe dans la société française.
Merci beaucoup, Laurent Mukiely. Je rappelle que vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS, invité de France Culture ce midi. Pardon pour la mauvaise connexion. L'autoroute A13 dans l'ouest parisien restera fermée au moins jusqu'à lundi dans les deux sens de circulation entre Paris et Vaucresson. Mesure de précaution prise par la préfecture des Hauts-de-Seine alors qu'une fissure est apparue jeudi soir près du tunnel de Saint-Cloud en raison d'un mouvement de terrain. Les amateurs d'art contemporain sont à Venise aujourd'hui où s'ouvre la 60e Biennale d'art contemporain. 87 pays y sont représentés et le pavillon français a été confié cette année à l'artiste qui a grandi en Martinique, Julien Creuset. Dans un festival qui nous fait traverser le monde entier, nous immerge dans un univers qui rappelle les Caraïbes. À Venise, Bruno Duvic.
Dès l'entrée, nous voyageons par les eaux. La première image évoque la fontaine des quatre parties du monde à Paris. L'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. À l'intérieur du pavillon, d'autres écrans nous plongent carrément sous les mers. Où sommes-nous ? Réponse ironique de Julien Creuset.
On est à Venise, dans le pavillon français. On est près des eaux. Venise peut être associée à l'idée d'archipel. Peut-être que par les eaux, on pourrait se relier à d'autres continents. Peut-être qu'on en arriverait jusque dans la Caraïbe et on arriverait en Martinique.
L'immersion est également sonore. L'artiste chante en français, latin, créole. Ce qui rappelle encore la Martinique, c'est la forêt dans laquelle on évolue dans les différentes salles. Des lianes tombent du plafond, mélange de textiles et de matières synthétiques dans des tons très vifs, orange en particulier, comme un colorant alimentaire.
C'est une graine qu'on appelle le roucou. C'est le orange de la Mimolette, du Livaro, du Pont-l'Évêque, et ça me fait voyager. On l'oublie souvent dans les produits du terroir, et c'est une graine des Caraïbes.
Les Caraïbes, au cœur de l'art français à Venise, c'est à l'image d'une biennale qui fait la part belle aux peuples et régions souvent oubliées dans l'histoire de l'art.
Bruno Duvic, un mot de météo avec des pluies passagères attendues sur les frontières de l'Est et les reliefs cet après-midi. La façade ouest bénéficiera de belles éclaircies, comptées en moyenne 9 à 22 degrés du nord au sud.